On va continuer dans notre étude de Jean. Si vous voulez vous tourner avec moi dans Jean 3, il y a l'histoire que l'on raconte d'une école du dimanche où on avait enseigné l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Si vous n'êtes pas familier avec cette histoire, sachez qu'il y avait un homme très pauvre, malade, qui aimait Dieu et qui vivait devant la porte de la propriété d'un homme très riche qui, lui, ne connaissait pas Dieu, ne l'aimait pas, ne lui rendait pas la gloire qu'il mérite. Et à un moment donné, on voit que, après leur mort, l'homme riche se retrouve dans un endroit de souffrance, et Lazare, lui, au contraire, va avec Dieu au paradis. Et l'enseignant, l'animateur, se dit, tiens, je vais demander aux enfants pour voir s'ils ont bien compris, qu'est-ce qu'ils préféraient être, l'homme riche ou Lazare? Et il y a un petit garçon, un petit malin, qui dit, moi, en fait, sur la terre, je voudrais être comme l'homme riche, et puis, dans le ciel, je voudrais être comme Lazare. Et ça, c'est bien notre nature de vouloir toujours ce qu'il y a de mieux, quelles que soient les situations. Et aujourd'hui, on pourrait intituler le message « Le prédicateur qui perdit sa congrégation », « Le pasteur qui a perdu son église ». Et ce texte va nous apprendre à dominer la jalousie, le désir de posséder toujours davantage, posséder plus que notre voisin. On va lire ensemble le passage qui commence au verset 22 jusqu'au verset 30. Je lis dans la version second 21. Si vous avez besoin d'un texte, vous pouvez lever la main et Mitch se fera un plaisir de vous apporter une Bible. Tout le monde a une Bible ? Ok. Je lis donc. « Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée, et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. » Or, une discussion surgit entre les disciples de Jean et un juif au sujet de la purification. Ils vinrent trouver Jean et lui dire « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui qui a la mariée, c'est le marié. Mais l'ami du marié qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix du marié. Ainsi donc, cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il grandisse et que moi, je diminue. » Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples. Jésus séjournait avec eux, dans un autre passage, dans une autre traduction. Il passait du temps avec ses disciples. Et ça reste vrai aujourd'hui. La priorité de Jésus, c'est d'être avec ses disciples, c'est de passer du temps avec nous. Nous pouvons être avec lui au travail, dans les loisirs, avec d'autres, tout seul dans la nature, tout seul dans notre routine quotidienne. Quand nous méditons, quand nous pensons à lui, quand nous le servons, la question c'est, est-ce que j'aime passer du temps avec lui? Si je n'aime pas passer du temps avec lui, c'est probablement parce qu'il y a du péché dans ma vie qui fait que je me sens mal en sa présence. Il est important et c'est un bon test. Est-ce que j'ai envie de passer du temps avec Jésus. Alors vous allez me dire, mais je peux pas aller prendre un café avec lui tout, et manger deux croissants, un pour lui, un pour moi. Non, c'est vrai, mais en même temps, il est plus présent que la personne à côté de qui vous êtes assis ou assise. Il nous a promis qu'il ne nous laisserait jamais, qu'il est avec nous jusqu'à la fin du monde. Et quand vous aimez quelqu'un, vous aimez passer du temps avec cette personne. Vous voulez la voir, vous voulez lui parler, vous voulez connaître son avis. Et pour nous, nous sommes invités à le faire en lisant la parole de Dieu, en priant, comme si on a un ami. Souvent, les nouveaux croyants se disent « je ne sais pas prier ». J'ai dit « mais comment tu parles à un ami ou à une amie ?» C'est la même chose. Tu peux lui dire tout ce qui est sur ton cœur. Tu veux en connaître. On veut connaître davantage sur nos amis. Quand vous rencontrez quelqu'un, c'est un signe de votre intérêt si vous demandez à cette personne d'où elle vient, si elle a de la famille, combien de frères et sœurs, qu'est-ce qu'elle fait, qu'est-ce qui l'intéresse dans la vie. Et toutes ces choses, nous pouvons nous poser ces questions à propos de Jésus et sa parole et son Esprit Saint qui nous la restitue répondent à ces questions. Et lui aussi, il veut savoir ce qui est sur votre cœur. Alors vous me dites, mais il est tout puissant, il sait tout. Oui, mais il veut que vous sachiez, que vous arriviez à le verbaliser, à l'exprimer par des mots. Parce que ça vous permet de savoir ce qu'il y a vraiment dans votre cœur. Et puis, il est dit qu'il séjournait avec eux. Il se rend donc dans la terre de Judée, c'est-à-dire à Jérusalem. Avant, il était en Galilée, il descend en Judée. Et puis, il séjournait avec eux et il baptisait. Alors, souvent, on pense que seulement Jean-Baptiste baptisait, mais là, il nous est dit que Jésus aussi, pendant un temps, baptisait. En fait, on verra juste après la fin du chapitre 3 que ce n'était pas Jésus lui-même qui plongeait les gens dans l'eau, c'est ses disciples qui baptisaient. Mais il était là, il assistait, il participait, il priait sans doute, il était heureux, il souriait lorsque les gens sortaient de l'eau. Et ça, c'était le baptême d'eau et de repentance qui symbolisait la mort à l'ancienne nature et la nouvelle naissance. Et tout de suite, il est dit que Jean, verset 23, baptisait aussi à Énon près de Salim. Parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, on s'y rendait pour être baptisé. Il y avait, on voit en fait, si on regarde sur une carte, et on n'est pas exactement sûr de l'emplacement de ces bourgades, mais on sait que c'était en Galilée. Donc c'est Jean qui était, Jean le Baptiste. Encore une fois, il y a deux Jean dont il est question dans ces passages. Il y a Jean qui écrit l'évangile, qu'on appelle Jean l'évangéliste. Et puis Jean-Baptiste qui était un cousin de Jésus et dont la tâche était d'annoncer, d'être le précurseur de Jésus. C'est lui dont il est question au début de Jean, lorsqu'il est dit qu'il annonçait « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il baptisait, il annonçait qui était Jésus. Donc on voit que Jésus de Galilée vient en Judée, mais Jean lui laisse la place et il part en Galilée. Jésus vient en Judée, Jean va en Galilée pour lui laisser un peu la place. On pense que ces endroits se trouvent près d'une ville qu'on visite aujourd'hui quand on va en Israël, qui s'appelle Beth-Shan. C'est la ville où est mort le roi Saül, a été tué le roi Saül. Et c'est une ville splendide parce que c'est une ville romaine, une grande ville romaine qui a été détruite par un tremblement de terre. Et avec le miracle de l'archéologie, on a pu restituer... fouiller ces ruines, et on peut se promener Alors certains des piliers ont été laissés par terre, d'autres sont encore debout. Et on a vraiment l'impression d'être en dehors revenu à l'époque du Nouveau Testament, dans un très beau cadre. Et c'est là qu'il baptisait. C'est par là qu'il baptisait. Il y avait beaucoup de points d'eau. Et d'autres passages disent qu'il y avait de l'eau en profondeur. Parce que le baptême tel qu'il était pratiqué à l'époque, se faisait pas par aspersion, en jetant un peu d'eau. Alors c'est vrai que c'est de l'eau, que ça. C'était une tombe, en quelque sorte. L'eau devenait le symbole d'une tombe liquide. Donc, en général, on meurt pas sous une petite pluie. Par contre, on peut mourir si on tombe dans l'eau et qu'on n'en ressort pas. Le baptême, vous en ressortez en nouveauté de vie. C'est la symbolique du baptême. Et c'est quelque chose que Jésus a prescrit en disant à ses disciples, « Allez, faites de toute la nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Il baptisait et il est dit qu'on s'y rendait. Il y avait beaucoup d'eau, et l'on s'y rendait pour être baptisé. En effet, Jean n'avait pas encore été mis en prison. L'évangile de Jean a été écrit à la fin du premier siècle, probablement dans les années 80. Donc les autres évangiles, qu'on appelle les évangiles synoptiques, ça veut dire qu'ils ont la même vision des faits qu'ils décrivent un peu, c'est-à-dire Matthieu, Marc et Luc, donne l'impression que lorsque Jean est avec Jésus, et puis tout de suite après, il va en prison. Là, Jean, qui sait de quoi il parle, parce qu'il était témoin de la situation, dit « Jean, parlant de Jean-Baptiste, n'avait pas encore été jeté en prison. » Donc on sait que Jean a eu des problèmes. Il critiquait le responsable politique qui était un descendant du roi Hérode pour avoir épousé sa belle-sœur. Et sa belle-sœur, Hérodiade, lui en voulait à mort. Et c'est vraiment le cas puisqu'elle a profité d'un moment où Hérode disait qu'il donnerait ce que sa fille voudrait. Sa fille Salomé avait dansé, l'avait séduite et elle lui avait demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plateau d'argent. Je ne sais pas qui a préparé les desserts pour tout à l'heure, ou le gâteau d'anniversaire, ou quoi que ce soit, mais imaginez qu'on vous amène la tête de Jean-Baptiste. C'est assez horrible. Et là, Jean nous dit qu'il n'était pas encore jeté en prison, et qu'il n'était bien sûr pas encore mort, mais qu'il baptisait. On va voir tout de suite l'humilité de Jean-Baptiste. Parce que il est dit au verset 25, il s'éleva de la part des disciples de Jean. Donc Jean, c'était comme un prédicateur, il annonçait qu'il fallait se repentir, il trempait les gens dans l'eau complètement en leur demandant de se repentir, c'est d'avoir le désir de ne plus pécher, mais de marcher avec Dieu. Et entre parenthèses, il n'y avait pas de cours de préparation très long, de diplôme à avoir avant d'être baptisé. Je dis ça parce qu'il y a certaines églises où le baptême, c'est un aboutissement. Dans la Bible, c'est le début d'un cœur qui veut aller vers Dieu. Il s'éleva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Certains manuscrits parlent avec les juifs, mais là, il est parler d'un juif à propos de la purification. Alors on est laissé aux suppositions qui c'était ce juif. Ça n'aurait pas beaucoup de sens si c'était quelqu'un pris au hasard. On pense des fois que ça pouvait être peut-être Nicodème qui avait toujours des problèmes à comprendre ce que Jésus lui avait dit. Et la purification était quelque chose de très important dans les rituels juifs. Il y avait des bassins qu'on trouve encore aujourd'hui, qu'on appelait des mikvés, où on trempait les gens pour les laver. L'idée, c'était de se laver de ses péchés. Il y avait aussi des textes qui ont été retrouvés dans les grottes de Qumran. Vous avez peut-être entendu parler des manuscrits de Qumran. C'est peut-être la plus importante découverte archéologique de l'histoire biblique dans les années 50. On a, par hasard, retrouvé des jarres qui contenaient des textes qui prédataient les copies qu'on avait de l'Ancien Testament de près de 200 ans, qui étaient vraiment un trésor archéologique. Et là-dedans, il était question des Esséniens. Les Esséniens, c'était une secte qui vivait à l'écart du monde. Et là, ils avaient beaucoup d'instructions sur la purification par l'eau. Et donc, c'était un sujet d'actualité. Aujourd'hui, on parle du Brexit. À l'époque, ils parlaient de la purification par l'eau. Les soucis ont changé. Et il est dit que après cette dispute, c'est une discussion assez vive. On peut parler d'une dispute, ils n'étaient pas d'accord du tout. Le verset suivant, verset 26, nous indique en fait c'était plutôt une manifestation d'un désagrément avec les disciples de Jésus. Ce sont les disciples de Jean qu'il est dit, il vint retrouver Jean et lui dire « Maître, celui qui était avec toi de l'autre côté du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, le voilà qui baptise et tous vont vers lui. » Là, on a des paroles qui montrent la jalousie. Lorsque deux personnes ont des activités comparables, en l'occurrence baptiser des inconvertis, la nature humaine est très rapide pour penser compétition. Si vous marchez avec deux enfants, il suffit qu'il y en ait un qui décide d'arriver le premier pour qu'aussitôt ça soit la course et qu'il y ait des pleurs et des larmes à l'arrivée pour celui qui n'arrive pas en tête. Ça, c'est malheureusement, c'est notre nature de pécheur. Et en fait, ils disent « celui qui était avec toi ». Ils ne disent même pas le nom de la personne. C'est des fans de Jean-Baptiste et ils n'aiment pas voir ce nouveau venu qui a une popularité qui est en train d'éclipser celle de Jean-Baptiste. Et au lieu de parler de Jésus, il dit « Celui qui était avec toi est comme un imbécile, tu as fait la propagande en disant « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, et bien tu as gagné. » Tous vont se faire baptiser par lui. Voici qu'il baptise et tous vont à lui. Le fait qu'ils ne disent pas le nom et qu'ils disent que tous, c'est un signe de jalousie. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il continuait, lui, à baptiser. Alors peut-être qu'il avait moins de monde, mais on va voir, en fait, l'humilité, la sagesse de Jean-Baptiste. J'aimerais avant dire qu'il n'est pas le seul à faire preuve d'humilité, de sagesse dans l'humilité. Dans le livre des Nombres, il y a un passage dans le chapitre 11, versets 26 à 30. C'est à l'époque de Moïse qui était le porte-parole de Dieu. Et là, au verset 26, il y eut deux hommes, l'un appelé Eldad et l'autre Médad. Eldad et Médad. Maintenant, vous saurez qui c'était ces gars-là. Eldad, c'est de l'espagnol pour dire le papa. Eldad. Et l'autre, Médad, c'est le papa du mois de mai. Je plaisante, mais j'aime bien essayer de me rappeler des noms, des versets, en faisant des petites analogies, souvent stupides. Mais maintenant, le papa espagnol, vous saurez qui c'est. Ils étaient restés dans le camp et sur lequel l'esprit reposa. En effet, ils figuraient sur la liste, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente et ils prophétisèrent dans le camp. Un jeune garçon courut annoncer à Moïse, « Eldad et Médad prophétisent dans le camp. » Josué, fils de Noun, qui était au service de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. « Moïse, mon Seigneur, empêche les ans. » Moïse lui répondit, « Es-tu jaloux pour moi ? Si seulement tout le peuple de l'Éternel était composé de prophètes, si seulement l'Éternel mettait son esprit sur eux. » Et Moïse retourna dans le camp ainsi que les anciens d'Israël. Moïse, il se dit, « Ce qui compte, c'est que Dieu soit annoncé, et si d'autres personnes que moi le font, à Dieu soit toute la gloire. » On sait aussi que Paul, dans Philippiens, disait, au chapitre 1, verset 15, « Certains, il est vrai, proclament Christ par jalousie, avec un esprit de rivalité, mais d'autres le proclament avec de bonnes intentions, les uns agissent par amour, sachant que je suis là pour la défense de l'Évangile, les autres, animés d'un esprit de rivalité, annoncent Christ avec des intentions qui ne sont pas pures et avec la pensée d'augmenter les souffrances de ma détention. » Il était en prison lorsqu'il écrivait cette lettre. « Qu'importe, de toute manière, que ce soit pour de mauvaises raisons, que ce soit sincèrement, Christ est annoncé. Je m'en réjouis et je m'en réjouirai encore, car je sais que cela aboutira à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Il y avait des gens qui, à l'époque, critiquaient Paul et annonçaient le salut en Jésus-Christ, mais ils le faisaient pour prendre par un esprit de rivalité, pour dire que Paul n'est pas le seul à annoncer, nous aussi on le fait. Et là, l'attitude de sagesse dans l'humilité, c'est de dire « Alléluia ! L'Évangile est annoncé aussi. » Et puis dans Luc, l'exemple, alors c'est, vous allez me dire, c'est évident, mais c'est dans Luc, puisqu'il s'agit de Jésus, Luc 9, 46 à 50, ils eurent, parlant des disciples, une discussion entre eux pour savoir lequel parmi eux était le plus grand. Indécrottables sommes-nous. Toujours vouloir être le premier. Jésus connaissait la pensée de leur cœur. Il prit un petit enfant, le plaça près de lui et leur dit, « Celui qui accueille en mon nom ce petit enfant, c'est moi-même qui l'accueille, et celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. En effet, celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui-là qui est grand. » L'humilité qui est prescrite par la Bible. On voit ici donc que la jalousie est entrée en action. Et sans généraliser, mais pour voir un peu que ce n'est pas seulement dans le cas d'annoncer l'Évangile ou de baptiser, mais dans notre vie à tous, on pourrait dire que ça commence, la jalousie est mise en action, mise en branle par quelqu'un qui vient et qui commence à comparer les deux parties. La comparaison. Et puis ça va, on va en parler autour de soi, et ça là va s'étendre à tout le groupe. C'est le cas des disciples de Jean, ils tombent facilement dans le piège. Et puis, le groupe va essayer d'infecter la personne en question. C'est ce qu'ils font. Ils vont voir Jean-Baptiste et lui disent « Tu es en train de perdre ta congrégation. » Mais ce qui est beau, c'est qu'en fait, dans le cœur de Jean-Baptiste, il n'y a aucune trace de jalousie, aucun orgueil. Et il répond... Et on va voir là plusieurs, ce qu'on pourrait appeler des grands principes libérateurs de ces problèmes. Il leur dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Le premier grand principe libérateur, c'est que Dieu est le chef de rayon des bénédictions. C'est lui qui bénit comme il veut. Jacques disait dans Jacques 1, verset 16, « Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés, tout don excellent et tout cadeau parfait viennent d'en haut. » On sait que c'est vrai pour les dons spirituels. Vous n'êtes pas à essayer d'imiter quelqu'un, à vouloir les dons spirituels que quelqu'un peut mettre en action. Ça, c'est dans Galates qu'on peut en parler, mais on n'a pas le temps là d'étudier ça en détail. Mais c'est vrai aussi pour les dons matériels. Dans 1 Corinthiens 4, 6, 7 et 7, Paul dira, ou a dit, à l'époque, les gens se réclamaient de différents enseignants. Certains disaient, moi, je me rattache à Paul. D'autres disaient, moi, Apollos, ainsi de suite. Et Paul leur dit, frères et sœurs, c'est à cause de vous que j'ai appliqué ces images à Apollos et à moi-même, afin que vous appreniez par notre exemple à ne pas aller dans vos pensées au-delà de ce qui est écrit, et que personne ne s'enfle d'orgueil en prenant parti pour l'un contre l'autre. En effet, qui est celui qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu? Tous vos talents, toutes vos richesses, toutes les choses qui vous plaisent dans votre vie, vous devez réaliser qu'en fait, c'est pas de votre fait que vous avez ces choses, ou ces dons spirituels, ou ces richesses matérielles. C'est Dieu qui vous les donne. Vos talents naturels, vos capacités, c'est pas vous qui les avez causés. Vous les avez reçus. Et ce que nous devons faire, au lieu de jalouser les autres, c'est de s'assurer que les talents que nous avons reçus, les dons spirituels que nous avons reçus, nous avons une responsabilité de les mettre en œuvre, de les utiliser. Nous devons être des bons gestionnaires pour les intérêts de Dieu. Là, j'avais une petite parenthèse dans mes notes, mais je vais sauter, qui s'applique à notre responsabilité avec nos finances par rapport à Dieu, par rapport à l'Église. Et là aussi, Paul dira dans 2 Corinthiens 9, 7 que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu vous parle et vous répondez. Nos dons ne constituent pas un moyen d'influencer Dieu, d'obtenir sa faveur, d'obtenir une position spéciale. Jésus a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Et Jésus regardait avec amour la veuve qui donnait en fait tout ce qu'elle avait en donnant deux petites pièces. Et nous sommes bénis aussi par votre générosité en tant qu'Église à Nice. Nous vous remercions de vivre ces principes. Un danger lorsqu'on voit ces choses que Dieu donne à certains et pas à d'autres, c'est d'être tenté d'utiliser des moyens malhonnêtes pour obtenir ces richesses. Bien sûr, c'est de la folie. Le psaume 37, 1 nous dit « N'envie pas ceux qui commettent l'iniquité, car ils sont fanés aussi vite que l'herbe et se flétrissent comme le gazon vert. N'allez jamais envier ceux qui ont des richesses mal acquises, c'est de la folie. » Et puis verset 28, un deuxième grand principe libérateur, où il dit « Vous m'êtes mes témoins que j'ai dit, moi je ne suis pas le Messie, mais j'ai été envoyé devant lui. » Le deuxième grand principe libérateur, c'est de se réjouir de ce que Dieu nous a fait. Pas évident des fois. On voudrait être quelqu'un d'autre. On voudrait être plus beau, on voudrait être plus jeune, on voudrait être plus riche, on voudrait être plus intelligent. Et c'est toujours dans ce sens-là, en général. On ne se regarde pas dans la glace en disant « Ah, si seulement je pouvais être plus moche. » Ou « Si je pouvais être moins intelligent. » « Ah, si seulement. » Il sait qu'il n'est pas le Christ. Il ne faisait pas le complexe du Messie que certains d'entre nous peuvent faire, où on voudrait régler tous les problèmes de ce qui se passe autour de nous. « Attendez, j'arrive. Tu as un problème. Laisse-moi te donner ma sagesse. » Job, sans doute le texte le plus ancien de la Bible, avait une philosophie, une sagesse très profonde lorsqu'il disait « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » La phrase est jolie, mais quand on connaît les circonstances, il avait perdu toute sa famille, toutes ses richesses, il était tombé malade. Ses amis, entre guillemets, lui disaient que c'est parce qu'il y avait du péché non confessé dans sa vie. Sa femme lui disait « Pourquoi tu ne maudis pas Dieu et meurs ?» Mais lui, devant Dieu, il disait « L'Éternel a donné, il m'a béni pendant un temps, l'Éternel a repris ou l'Éternel a ôté. Dieu doit toujours être glorifié, c'est lui le souverain suprême, que l'Éternel, le nom de l'Éternel soit béni. » Jean-Baptiste avait une juste opinion de lui-même. Au verset suivant, il va parler de lui-même comme de l'ami du marié. L'époux, Jean-Baptiste se voit comme l'ami de l'époux. L'époux, c'est Jésus. L'épouse, c'est la communauté de tous les croyants, Israël, puis l'Église. C'était une des grandes images de l'Ancien Testament, celle d'Israël comme l'épouse et de Dieu comme l'époux d'Israël. Parce que Dieu, dans son idéal, voulait que l'union entre Israël, son peuple et lui, soit si proche qu'elle ne pouvait être comparée qu'à un mariage heureux. Lorsqu'Israël a suivi d'autres dieux, des idoles, il était dit qu'elle se rendait coupable d'infidélité au lien du mariage, d'adultère. Et le Nouveau Testament reprend l'image, parle de l'Église comme de l'épouse. Et Jean-Baptiste a cette image en tête. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est l'époux de l'Église, et l'Église, c'est l'épouse. Jésus va revenir chercher son épouse pour l'emmener au ciel. Ça, c'est l'Apocalypse. Lui n'est que l'ami de l'époux. En hébreu, c'était un poste très, très important, un poste de confiance. On appelait ça le shosben. C'était plus que le garçon d'honneur d'aujourd'hui. Le garçon d'honneur aujourd'hui, dans un mariage à l'occidental, sa plus grande épreuve, c'est d'être drôle pendant un petit discours. Rappeler les souvenirs qui font rire ceux qui ont connu les époux ou l'époux, à l'époque où ils étaient jeunes et qu'ils faisaient les 400 coups. Et si vous faites rire les gens, vous êtes un bon garçon d'honneur. À l'époque, l'ami de l'époux, il avait une tâche très importante, c'est lui qui organisait le mariage. Il était le messager entre les fiancés, il envoyait les invitations, il présidait la cérémonie, il amenait les deux ensemble pour le mariage. Il avait même la responsabilité de veiller sur la chambre nuptiale pour que personne ne vienne déranger le couple. Aujourd'hui, en France, à l'époque, peut-être moins maintenant, mais c'était toujours très drôle d'aller déranger les mariés dans leur chambre nuptiale en faisant du bruit à leur porte. Mais ça je crois que ça passe. Et ce qu'il voulait, il voulait entendre la voix de l'époux, et lorsqu'il voyait l'époux arriver, il ouvrait, il laissait l'époux avec sa femme, et sa tâche était terminée, il pouvait se réjouir d'avoir fait son travail, ce qu'on attendait de lui, et c'était encore une fois un poste très important que l'on ne confiait qu'à des amis proches et capables d'organiser ces choses. Et puis, il a cette parole qui est peut-être très connue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ça pourrait être en fait un précepte pour nous tous. Dans notre vie, il faut que Jésus croisse et que nous ne soyons pas à la recherche de quelque gloire que ce soit. On a dit du chapitre 3 que c'était le chapitre des « il faut »,« you must ». C'est, on l'a vu dans Jean 3, 7, le « il faut » du pécheur. Il faut naître d'en haut, il faut naître de nouveau. Il y a le « il faut » du Sauveur, Jean 3, 14, « il faut que le Fils de l'homme soit élevé ». Il y a le « il faut » du Souverain, c'est là dans ce verset Jean 3, 30, « il faut qu'il grandisse ». Et le « il faut » du Serviteur, « il faut » que je diminue, il faut que le serviteur diminue. Ça, c'est les « il faut » du chapitre 3 de Jean. Ce « il faut qu'il croisse et que je diminue », ça doit être notre prière tous les jours, à chaque moment. Que ce soit dans le travail spirituel auquel on peut être associé, que ce soit quand vous enseignez vos enfants, quand j'aime bien que Tonio souvent doit dire à sa fille, qui a 4 ans et quelques, « Papa is the boss ». Papa, c'est le patron. C'est lorsqu'elle conteste les décisions, mais il ajoute bien souvent « Et le boss de papa, c'est Jésus ». C'est très important de ne pas prendre la gloire qui revient à Dieu. Il faut qu'il croisse et que je diminue. C'est intéressant, lorsque j'étais en école biblique au Canada, dans l'Alberta, j'ai connu un homme dont j'ai retrouvé le nom en regardant hier soir sur Facebook et en m'apercevant qu'il était ami avec James Lowen. Cet homme s'appelle Bev Sessink, et lorsque nous nous sommes dit au revoir à la fin de l'année, il a prié en disant « J'espère que la prochaine fois que je te vois, il y aura moins de toi et plus de Jésus-Christ. » J'ai dit « Ça, c'est une bonne prière. Je prie la même chose pour toi. » Donc, je ne l'ai pas revu depuis. Je crois que Corinne les connaît aussi. Mais ça m'avait frappé. J'ai trouvé que c'était une bonne prière, surtout lorsqu'on se sépare. La prochaine fois qu'on se voit, je veux que toi, tu aies diminué et que Christ ait augmenté dans ta vie. C'est le troisième grand principe libérateur, ne pas chercher sa propre gloire, mais celle de Dieu. Le psaume 115... Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom, donne gloire à cause de ta bonté, à cause de ta vérité. Pas à nous, la gloire ne nous appartient pas. Et Jean, j'ai dit que Jean-Baptiste, c'était comme un pasteur qui avait perdu sa congrégation. Et c'est vrai que ce passage, je crois qu'il est, il est important pour tous. Il donne des principes de sagesse pour tous les hommes et toutes les femmes, mais il s'applique en particulier aux pasteurs, aux missionnaires, à tous ceux qui sont impliqués dans le travail spirituel d'annoncer l'Évangile. Et si une église vient s'installer dans les locaux de casino en bas, vous ne savez pas, mais casino, avant, c'était le rendez-vous de l'église, le super casino qui est en bas, en face de la Madeleine. Pourquoi ? Parce qu'à l'étage, il y avait un super restaurant, un self-service, qui était génial. Il y en a qui l'ont connu ? Voilà, voilà. Et je ne sais pas ce qu'ils ont fait de ces locaux. Et à l'époque, on se disait, ça serait bien, on pourrait utiliser ces locaux pour faire des réunions bibliques. Imaginons que quelqu'un s'installe là et que d'un seul coup, je vois que, ben, où est ma congrégation ? Ils sont partis là-bas. Ça ne me plairait pas dans ma vieille nature. Mais si l'enseignement est sain, si le prédicateur ou les prédicateurs sont doués et qu'ils sauvent des centaines de personnes, que le ministère a une influence, je serais le roi des imbéciles, le roi des égoïstes et le roi des vaniteux que d'être opposé à ça. Et Jean-Baptiste, lui, il avait perdu sa congrégation, elle disparaissait, mais il se réjouissait parce qu'il était content. Encore une fois, il savait que c'est Dieu qui distribue les bénédictions. Et puis, il ne cherchait pas, ici on voit qu'il ne cherchait pas sa propre gloire. Il était heureux de servir Dieu. Il se réjouissait, avant le troisième principe, c'est il se réjouissait de ce que Dieu l'avait fait. Est-ce qu'on peut vraiment se réjouir ? Oui, on a toutes les raisons de se réjouir d'être sauvé, d'être pendant un temps en bonne santé, de pouvoir faire des choses. On devrait se réjouir, mais l'ennemi est là avec notre vieille nature pour nous rendre malheureux en nous disant que c'est dommage, tu devrais avoir plus, tu devrais avoir plus d'influence, plus de notoriété, comme on dit. Un tel, il passe à la télé, on le voit, il écrit des livres, et toi, qu'est-ce que tu fais ? Tu es inconnu, et alors ? Je ne suis pas le Christ, j'ai été envoyé devant lui. Se réjouir de ce que Dieu fait de nous et comment il nous utilise. Et la joie ne vient pas de l'importance que nous pouvons avoir, mais de l'obéissance que nous utilisons, de l'obéissance que nous respectons. On va lire le reste du chapitre où il fait juste ça, justement, il fait croître Jésus. Alors certains pensent que c'est versets 31 à 36 sont un commentaire de Jean, l'évangéliste. D'autres pensent que c'est Jean-Baptiste qui, dans la foulée, dirait « voilà ce qu'il en est ». Mais peu importe que ce soit Jean ou Jean-Baptiste, le texte est inspiré par l'Esprit-Saint et nous donne, c'est ce qu'on appelle un passage de grande christologie, une description de qui est Jésus. Qui est le Christ Jésus ? On voit en fait cinq raisons pour lesquelles Jésus est bien supérieur à Jean-Baptiste. Vous vous souvenez peut-être, on a étudié il n'y a pas si longtemps la lettre aux Hébreux, et là aussi on voyait comment Christ était montré supérieur à toute autre chose, à toute autre personne, aux grands prêtres, etc. Il y avait cette affirmation de la prééminence de Jésus-Christ. Et c'est souvent comment vous pouvez reconnaître une secte, c'est qu'elle dénie, elle renie cette prééminence de Christ en disant qu'il n'était qu'un homme, qu'il n'était que le cousin, le frère de Lucifer, ou qu'il n'avait pas la puissance de Dieu. Jésus est Dieu à 100%. Jésus est homme à 100%. Ce qui est merveilleux, ça veut dire qu'il y a un homme dans la gloire de Dieu. Il nous comprend. Il a été tenté en toutes choses. C'est difficile à même concevoir. On se dit, non, c'est pas possible. Il n'a pas pu avoir les mauvaises pensées de tentation que je peux avoir. Il l'a dit, mais jamais il n'a succombé à la tentation. Jamais il n'a péché. Lisons ensemble les versets 31 à 36. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle des réalités terrestres. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne n'accepte son témoignage. Celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. En effet, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Cinq raisons pour lesquelles Jésus est supérieur à Jean-Baptiste. D'abord, l'origine céleste de Jésus. Celui qui vient d'en haut. Il nous faut naître de nouveau ou naître d'en haut, c'est le même terme. Il est au-dessus de tous. Et c'est vrai qu'il est venu des cieux. Il est au-dessus de tous, y compris Jean-Baptiste. Et seul Jésus pouvait prétendre être venu des cieux et le prouver. Et c'est bien la raison pour laquelle les Juifs l'ont attaqué, c'est qu'il proclamait être Dieu. Il l'avait bien compris à l'époque. Ce que Jésus disait signifiait qu'il était d'origine divine, qu'il était venu d'en haut, qu'il avait une origine céleste, qui était différente de tous les autres hommes spirituels qui ont pu exister. Il était de plus, il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. Et puis il ajoute, personne ne reçoit son témoignage, ce qui n'est pas tout à fait vrai, mais en même temps, quand on sait qu'au bout de son ministère, il y avait 120 disciples qui s'étaient réunis pour prier, alors qu'il avait parlé à des milliers, des dizaines de milliers de personnes, peu avaient reçu son témoignage. Donc le personne, c'est un peu une façon d'insister que... Mais il rendait témoignage de ce qu'il a vu et entendu. C'est-à-dire que son témoignage, il avait un témoignage direct. Alors que Jean-Baptiste, il ne disait que ce qu'il avait entendu. Personne n'était comparable à lui pour savoir que c'était un témoignage direct. Et on étudie le jeudi la première lettre de Jean et on a expliqué que Jean insistait sur le fait qu'il avait été témoin de la vie de Jésus. Il l'avait touché, il lui avait parlé, il l'avait vu, parce que le témoignage, c'est quelque chose de capital dans un tribunal, un témoignage direct. Et là, nous avons le témoignage direct de Jésus. Il nous dit des choses que personne d'autre ne peut attester. L'Esprit Saint est à l'œuvre pour les attester dans nos cœurs. Et puis, il avait un témoignage qui était toujours en accord avec Dieu. Il est dit, verset 33, celui qui a accepté son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Lorsque nous acceptons le témoignage de Jésus, c'est comme si nous apportions notre tampon pour dire oui, tout ce que Dieu dit est vrai, parce que Dieu l'a dit. Dieu a dit qu'il a envoyé son Fils. Celui-ci est mon Fils bien-aimé. C'est une façon de savoir que quand on reçoit le témoignage de Jésus, on reçoit le témoignage de Dieu. Tout ce que Dieu dit est vrai, tout ce que Jésus dit est vrai. Et tout ce que Jésus dit de Dieu est vrai. Donc c'est un témoignage qui est bien supérieur au témoignage de Jean-Baptiste. Puis on voit aussi que celui qui, verset 34, celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu lui donne l'esprit sans mesure. Ça, c'est l'affirmation que Jésus avait l'Esprit Saint complètement. sans aucune limite, sans aucune frontière, sans aucune restriction. Il était complètement rempli de l'Esprit Saint. Et à l'époque de Jean-Baptiste et des autres prophètes de l'Ancien Testament, l'Esprit Saint venait sur une personne, mais ne demeurait pas complètement. Nous avons le privilège que l'Esprit Saint, quand nous acceptons Jésus-Christ, il vient vivre en nous. Nous pouvons demander le baptême de l'Esprit Saint, c'est-à-dire d'avoir cette puissance qui vient sur nous pour nous aider à être des témoins fidèles. Dans le livre des Actes, c'est la description du verset 8, pour être des témoins fidèles. Il avait la puissance illimitée du Saint-Esprit, ce que n'avait pas Jean-Baptiste. Et puis, versets 35 et 36, « Le Père aime le Fils et a tout remis entre ses mains. » Jésus a reçu toute autorité de la part du Père. Et donc, rejeter le témoignage de Jésus, c'est rejeter la plus haute autorité de l'univers, de Dieu lui-même. Et c'est tellement important que le verset 36 résume les choses simplement. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Est-ce que vous croyez au Fils ? Pas d'une façon intellectuelle ou de dire « oui, je crois », mais est-ce que dans votre cœur, vous pouvez vraiment faire confiance à Dieu pour vous diriger, pour vous guider, pour lui remettre votre destinée éternelle. Si vous croyez au Fils, alors la vie éternelle est à vous. Mais si vous ne croyez pas au Fils, vous ne verrez pas la vie. Comme on l'a dit la semaine dernière, la question qu'on nous posera au jugement dernier, ça sera pour ceux qui n'auront pas encore accepté le Fils, c'est est-ce que vous avez reçu Jésus-Christ ? Parce que Jésus-Christ est notre salut. Si on rejette Jésus, on rejette notre salut et conséquemment, en conséquence, on est condamné à la mort éternelle. La colère de Dieu, c'est un peu bizarre de terminer, c'est le seul passage dans Jean, dans l'évangile de Jean, dans la première lettre de Jean, il en parle dans l'Apocalypse, bien sûr. La colère de Dieu, c'est le seul endroit où c'est utilisé. Vous n'aimez pas quand votre femme ou vos amis sont en colère contre vous. Vous n'aimez pas quand votre patron est en colère contre vous. Quand Dieu est en colère contre vous, comme dirait Daphné chantant la chanson de Jacques Dutronc, « Aïe, aïe, aïe !» Il y a des cactus. Ce n'était pas un pari que j'avais fait. Hein, mais celui qui ne croit pas au Fils, la colère de Dieu reste au contraire sur lui. On a du mal à imaginer quelque chose de permanent, d'aussi négatif. Parce qu'on est habitué dans la vie, et Dieu merci, il fait briller le soleil sur les justes comme sur les injustes, mais les épreuves, généralement, ont une fin. Ça peut être la mort, alors on ne sait pas si c'est ce qui se passe après nécessairement, avant d'y aller, mais c'est terrible. La colère de Dieu demeure sur lui. C'est comme si la colère, elle était déjà là, et c'est là de venir à la foi en Christ qui enlève la colère de Dieu et qui fait de nous des enfants de Dieu. Quelqu'un a résumé le fait que dans Jean 3, il y a vraiment la nécessité d'une relation personnelle avec Jésus. Il faut une relation vivante qui commence avec la naissance d'en haut, la nouvelle naissance, lorsqu'on répond au Saint-Esprit qui est autour de nous tous, qui veut nous convaincre de justice, de péché et de jugement. Lorsqu'on dit « oui, je reconnais que je suis un pécheur, j'ai besoin que tu viennes me sauver, Seigneur », il le fait et nous avons la naissance d'en haut. Il veut une relation personnelle d'amour, une relation vivante, mais une relation personnelle d'amour. Il est l'époux et nous faisons partie de l'épouse. Et dans cette relation d'amour, il reçoit tous les honneurs. Et puis il veut aussi une relation personnelle d'approfondissement, de meilleure connaissance, d'étude. Il est le fidèle témoin qui partage la vérité de Dieu avec nous. Et c'est merveilleux de recevoir sa parole, d'étudier sa parole, de méditer sa parole, de mémoriser sa parole, de l'assimiler. Elle transforme nos vies pour notre plus grand bien. Toutes ces bénédictions, en fait, il ne faut pas oublier le coût qu'elles représentent pour Dieu. Pour que nous naissions dans la famille de Jésus, il a fallu que Jésus meure. Il a souffert la condamnation, le rejet des hommes. Il a fallu qu'il soit élevé sur la croix pour que nous ayons le pardon et la vie éternelle. Ne l'oublions jamais. Quelqu'un disait, pour effacer la mort éternelle, il a fallu que meure la vie éternelle. Jésus, c'est la vie éternelle. Il a accepté de mourir, d'être séparé un temps de son Père avec qui il avait une communion éternelle avant et après pour que nous puissions ne pas mourir éternellement. Amen. Prions. Seigneur, merci pour l'exemple de Jean-Baptiste, l'exemple d'humilité, de sagesse inspirée, lui qui pouvait se réjouir de ce qu'il était, qui savait que c'est toi qui décides des bénédictions, Seigneur. Il savait que c'est toi qui nous fais comme nous sommes. Il ne cherchait pas sa gloire, mais la tienne. Seigneur, nous te demandons de nous aider à faire la même chose, Seigneur. Pardonne-nous toutes nos rivalités, nos vaines gloires, notre orgueil qui est si dénué de fondement, puisque en fait tout ce que nous pouvons avoir, tout ce que nous pouvons faire, c'est par ta grâce. C'est toi qui donnes, Seigneur, aide-nous à recevoir, à être heureux de ce que tu nous donnes, à te rendre la gloire que tu mérites. Oui, Seigneur, on te demande de nous donner la joie de te connaître, Seigneur. Et si vous n'avez encore jamais reçu la vie éternelle en acceptant Jésus-Christ, pendant qu'on est encore dans le recueillement, je vous demanderai simplement de signifier que vous voulez recevoir Jésus comme votre sauveur, d'abord comme votre Seigneur, et pour qu'il devienne votre sauveur en levant la main discrètement. Merci de le faire si c'est votre cas. C'est la décision la plus importante que vous puissiez jamais prendre. Être au bénéfice de sa mort sur la croix, du pardon du Père, de l'amour divin, pour toujours. Seigneur, merci pour ce texte, merci pour ces leçons que tu veux nous montrer dans la vie de Jean-Baptiste. On prie pour que tu continues de toucher nos cœurs, Seigneur, que cette parole continue de faire son effet dans nos cœurs, comme la pluie qui tombe sur le sol sans ne pas avoir son effet, à savoir faire pousser les graines et donner du pain aux semeurs, Seigneur. On te demande de travailler nos cœurs, Seigneur. Nous prions ces choses par le nom de Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur. Amen.